tremble. Vous savez, quand on s'approche du trône de la grâce, on ne peut pas manquer notre coup que de recevoir de la grâce. Qu'est-ce qu'on peut demander au trône de la grâce, hein? On ne demande rien. C'est par définition, c'est par grâce. Alors, quand on s'approche du trône de la grâce, on reçoit la grâce. Au livre des Rois, vous savez, au chapitre 10, versets 1 à 13, nous avons un récit en lien avec la reine de Séba. La reine de Séba, hein, en Éthiopie. Et cette reine-là avait eu vent, on lui avait parlé, rendu témoignage de la grandeur et de la richesse de Salomon. Et on avait tenté par tous les moyens possibles de bien décrire la réalité. Alors on avait choisi notre rhétorique, on avait utilisé des images ultra puissantes pour lui faire comprendre à quel point il y avait sur cette terre un roi, un Juda, qui était riche et qui était glorieux. Alors ceux qui l'en avaient informé n'avaient reculé devant strictement rien pour lui présenter cette vérité-là, mais la reine ne parvenait pas à y croire. Elle disait, comme on dit souvent, ça se peut pas. Alors elle a décidé d'aller vérifier elle-même la situation. Alors elle est partie avec un gros groupe de ses serviteurs et de ses servantes et elle s'est rendue effectivement auprès du roi Salomon. Et lorsqu'elle le vit, et lorsqu'elle entendit les propos, la sagesse qui sortait de sa bouche, elle n'a pu s'empêcher de confesser que tous les rapports élogieux qu'on lui avait faits ne représentaient même pas la moitié de la réalité qui était en Salomon. Ça nous donne une petite idée d'où se tenait Salomon. On parle souvent de Elon Musk, ça devait être un BS à côté de Salomon, hein? Alors, il ne faut aucun doute que c'est une vérité qui s'applique aux éléments du texte que nous allons aborder aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous traitons à nouveau du renouvellement complet du royaume des cieux et de la nouvelle terre. Et du renouvellement également de l'Église, du royaume des cieux, dans l'attente que nous sommes des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Essentiellement, ce nouvel état de choses-là se résume par la présence constante du tabernacle de Dieu parmi les hommes. Le texte ne va pas dans tous les détails, mais il ne manque pas de nous dire que péché et souffrance. Ce nouvel état de choses se résume donc par la présence constante du tabernacle de Dieu parmi les hommes. Comme je le disais, on n'a pas tous les détails imaginables. On ne peut pas définir vraiment ce que sera le ciel, ce que sera les nouveaux cieux et les nouvelles terres. On nous en donne révélation, mais ça va infiniment au-delà, je pense, de tout ce qu'on peut imaginer. On entend souvent dire « laissez aller votre imagination et c'est ça que vous aurez ». Je pense que c'est très mal dit. Ce n'est pas du tout conforme à notre imagination, c'est conforme à la créativité et à l'instinct supérieur, suprême, unique et souverain de notre Dieu. Alors, ce qui nous est dit, cependant, c'est que péché et souffrance seront choses du passé. Plus question de péché, plus question de souffrance. Drôlement intéressant. Hein, on dit toujours que la justification, c'est d'aller la délivrance du péché. Hein? C'est ça qu'on dit? La sanctification, c'est... Et la glorification, c'est l'absence du péché. Il n'y a plus la présence du péché. On a une tranquillité parfaite, ça laisse place à la justice et à la sainteté de Dieu dans la plénitude de la connaissance et de la gloire de ce Dieu-là. Alors, dans la péricope d'aujourd'hui, il nous est dépeint un tableau symbolique. Un tableau symbolique de ce nouvel état de choses et particulièrement de la cité sainte, la Nouvelle Jérusalem. Je pense que je vais l'enlever finalement. La Nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Alors, on va lire ensemble, si vous voulez, le chapitre 21 de l'Apocalypse, les versets 9 à 21. On va prendre une péricope un peu plus longue pour cette semaine. On aurait pu aller jusqu'au verset 29 aussi, mais on va s'arrêter au verset 21. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 fils des 12 tribus des fils d'Israël, à l'orient 3 portes, au nord 3 portes, et au midi 3 portes, et à l'occident 3 portes. La muraille de la ville, avait aussi 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parla avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Amen. Ma première avenue de propos aujourd'hui va être l'Église à titre d'épouse du Christ. C'est bien ce que le texte nous dit, d'entrée de scène. Qu'il me soit d'abord permis de souligner qu'il s'agit de l'Église, l'épouse du Christ. Le Seigneur n'est pas bigame. Avec tout le respect qu'on a pour nos amis dispensationalistes, nous ne croyons pas que le Seigneur a eu une épouse dans l'Ancien Testament et qu'il en a une autre dans le Nouveau Testament. Le Seigneur a une seule épouse et c'est l'Église. Elle se compose de tous les croyants, de tous ceux et de toutes celles nées de l'Esprit, de toute époque, de toute race et de toute langue. Un seul peuple, une seule épouse. Au verset 9, donc, nous lisons, « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux, vint, et il m'adressa ses paroles en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Nous sommes ici devant une formule fort intéressante que nous avons rencontrée déjà verbatim d'ailleurs, dans d'autres chapitres, entre autres au chapitre 17. Au chapitre 17, verset 1, nous lisons, Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, et nous avons la formule ici, « Viens, je te montrerai. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et dans ce chapitre 17-là, que fait l'apôtre? Ben, il nous introduit la grande prostituée. Bibliquement parlant, spirituellement parlant, la femme la plus laide qui puisse être imaginée et la plus détestable qui puisse être. Et c'est avec le même propos, « Viens et je te montrerai ». Au chapitre 7, hein, c'est avec ce même propos que l'ange procède. Dans un premier temps, donc, au chapitre 17, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Mais ici, au chapitre 21, c'est son opposé. « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et dans les deux cas, bien sûr, Jean est transporté en esprit pour apprécier ces visions-là. Inutile de rappeler qu'au chapitre 17, il s'agit de Babylone, la prostituée qui attire, qui séduit les hommes, on le sait, par toutes sortes de manigances, par toutes sortes d'idéologies, etc., pour les éloigner du Seigneur. Mais au chapitre 21, c'est l'épouse magnifiquement préparée, parce qu'elle a été préparée. Elle ne s'est pas préparée. Hein? Elle a été préparée par son époux. Magnifiquement préparée par son époux, le Seigneur Jésus, la femme qui est aussi décrite d'ailleurs, on va le voir plus loin un tout petit peu, en termes de Nouvelle Jérusalem et de la cité de Dieu. Le contraste est, on ne peut plus, évident. Le contraste est évident et il est délibéré. Quant au choix qui s'impose, on se retrouve ici dans le texte de l'Apocalypse, tout du long, avec deux femmes et deux cités. C'est l'une ou l'autre. Deux femmes, deux cités. L'histoire de Babylone est maintenant rendue à son terme. C'est terminé pour Babylone, hein? On l'a vu dans les chapitres précédents. Elle est détruite. Alors que l'histoire de la Nouvelle Jérusalem ne fait que commencer ici. Elle descend du ciel d'auprès de Dieu et elle harmonise en quelque sorte et le ciel et la nouvelle terre. Et comme le mentionne le verset 21, elle est rayonnante comme une perle. Et cela nous amène à nous poser une question des plus fondamentales. Question simple, mais fondamentale. Est-ce que j'aime l'Église? Un de mes amis pasteurs, qui est à la retraite maintenant, il était pasteur à Los Angeles, l'église qui est responsable de moi, qui était responsable tout au long des années pour mon soutien, pasteur Earl Blackburn, que peut-être certains de vous ont connu, il nous a visité à l'occasion. Il a écrit quelques bouquins, dont un qui s'intitule « Jesus loves the church, so should we ». C'est un excellent bouquin qui nous fait réaliser ce qu'est l'amour de l'Église. La plupart des croyants, lorsqu'on leur pose la question « Est-ce que vous aimez l'Église? » vont répondre très rapidement « Mais bien sûr que j'aime l'Église. » Mais pensons-y à nouveau. Comment parle-t-on de l'Église? Quel genre de critique entretenons-nous face à l'Église? Est-ce que nous réalisons que nous sommes quelque part partie prenante de cette Église-là? Est-ce que nous réalisons que nous sommes partie prenante de cette Église-là, qu'il a fallu l'incarnation du Christ, ses souffrances, dit-on, actives et passives, pour la racheter? Bien sûr que l'Église est imparfaite. Lorsqu'on parle de l'imperfection de l'Église, on parle d'une réalité qui est incontournable, on n'annonce rien de nouveau. Elle va toujours être imparfaite jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible elle-même en rend témoignage. Nous avons les chapitres 2 et 3 que nous avons lus dans l'Apocalypse, les sept églises, le récit des sept églises. On voit bien l'imperfection. Qui plus est, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alors l'ensemble de l'Église, toute l'Église, est une Église encore bien imparfaite. Et c'est la raison de l'œuvre du Christ, de la parfaire. On va revenir sur ce mot-là. C'est la raison de l'œuvre du Christ, de la parfaire pour le dernier jour. Est-ce que nous avons une vision catholique romaine de l'Église qui croit qu'il nous faut un leader terrestre qui l'organise en vue de vaincre le monde? L'Église n'est pas une entité politique au départ. Bien sûr que nous croyons au mandat culturel, on croit à aider son prochain, à aimer son prochain, à aimer son prochain dans une perspective christique, pour leur manifester l'amour du Christ, pour proclamer les bienfaits du royaume. Nous croyons au mandat culturel, ce qui ne signifie aucunement qu'il suffise de rendre les gens plus confortables dans leur marche vers l'enfer. On n'a aucun acquis si on se limite à cela. Nous nous mouvons dans la sphère de l'éternité. Et la richesse que nous avons donnée aux gens, dans tout ce qu'on leur accorde, les services qu'on leur rend, les dons qu'on leur fait, toujours dans une perspective d'amour du Christ, c'est toujours dans une perspective d'éternité. Lorsque Pierre et Jean sont montés au temple et qu'il y avait ce boiteux à la porte qui était depuis des années, depuis quelques décennies, qui voulait avoir des sous, Pierre s'est arrêté avec Jean, ils l'ont regardé attentivement et le bonhomme était dans tous ses états, il était sûr de recevoir une très grosse somme. Déception des déceptions, Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Alors on n'est pas la première église cassée. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. C'est ça la richesse que nous avons. Il se passe de belles choses actuellement dans le monde, vous savez, au niveau spirituel, il y a un éveil spirituel. Mais il faut vraiment que ce soit un éveil spirituel pour les choses spirituelles. Parce que le monde peut faire de très belles choses dans une perspective humaniste. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. On entend tellement d'accusations contre l'Église. Ah, c'est la faute de l'Église qui n'a pas fait ceci, c'est la faute de l'Église qui n'a pas fait ça, ou c'est la faute de l'Église qui a fait ceci ou qui a fait cela. C'est la faute de l'Église si ça va mal dans le monde. Vous avez déjà entendu ça, on entend ça régulièrement. On termine notre série sur l'Apocalypse, et on n'y retrouve aucun blâme sur l'Église pour la situation du monde. Bien sûr qu'elle est imparfaite, sinon elle ne serait plus sur la terre. Mais elle n'a pas apporté le blâme pour le monde. Il y a un antéchrist, il y a un dragon, il y a une bête, il y a un faux prophète, il y a une Babylone qui la déteste au superlatif. Bien sûr que l'Église et les chrétiens sont imparfaits avec leur négligence, leur incohérence, et parfois, il faut bien l'admettre, un petit peu d'hypocrisie, ça et là. Mais il y a une autre réalité. On a besoin de parler de la réelle beauté de l'épouse du Christ. Nous parlons souvent à la légère de l'épouse du Christ, mais nous ne parlons pas de l'épouse des autres de la même façon. Je n'accepterai jamais, puis j'imagine que c'est votre cas aussi, je n'accepterai jamais qu'on me parle à la légère de Diane. On ne parle pas non plus à la légère de l'épouse du Christ. Comment parle-t-on de l'Église? En termes des chapitres 2, et 3 de l'Apocalypse, ou en termes du chapitre 21, dans son rôle d'épouse de l'agneau. Et ça m'amène à mon deuxième aspect du discours, la beauté de l'épouse. C'est l'Église du Christ, c'est vous et moi. Quelque autre métaphore que nous puissions utiliser pour décrire notre relation avec le Christ, cette dernière scène de la Bible présente un portrait de notre mariage avec l'agneau. Le mariage, c'est la relation la plus intime pour un être humain. C'est l'amalgame par excellence, si je puis dire. C'est la plus belle manifestation alliantielle qui puisse être, nous dit Éphésiens chapitre 5. Il nous parle du mariage en disant, j'écris cela par rapport à Christ et à l'Église. Selon les termes d'Éphésiens 5, 26-27, Christ l'a sanctifié en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Quelle espérance est la nôtre? Que voulons-nous de plus? Le Christ nous a sanctifiés, hein, nous a mis à part. Le Christ nous a purifiés en nous lavant dans l'eau de la parole et dans un seul but, nous faire paraître glorieusement, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. D'où vient notre beauté? Ben, notre beauté nous vient de l'œuvre du Christ en nous. Nous sommes, selon les termes même d'Éphésiens 2, 10, et là c'est un autre mot que vous connaissez vraisemblablement, qui est extrêmement important, nous sommes son ouvrage. Le mot poiema, en grec, se traduit par son œuvre d'art. On n'est pas des sacs de poubelle ou des tas de ferraille. Nous sommes son œuvre, son travail, son chef-d'œuvre. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas à la sauvette, il le fait bien. Nous sommes son ouvrage. On parle souvent de l'importance de faire l'œuvre de Dieu, et c'est une réalité que nous servons le Seigneur, mais avant cela, nous sommes son ouvrage, son œuvre d'art. À quel point il est important non seulement de saisir, mais de s'approprier cette réalité qui est mienne en Christ Jésus et toute cette vision-là de splendeur. Ce sens d'émerveillement, aussi indigne sommes-nous à régime d'incarnation, nous attend dans cette place d'honneur pour la célébration préparée par notre époux bien-aimé, le festin des noces de l'agneau. Vous savez, la beauté ici-bas, c'est tellement éphémère. Je suis tombé hier sur une photo de moi-même. Quand j'avais 19 ans. C'était beau bonhomme, vous savez. Ouais. J'ai pas toujours eu l'air d'un épouvantail à moineaux comme maintenant, vous savez. Fut un temps, mais les choses changent. La beauté terrestre est très éphémère. Mais la beauté que le Christ confère, travaille, œuvre, produit dans son Église, c'est une beauté éternelle qui n'aura aucun défraîchissement, qui va demeurer dans sa totalité, dans sa magnificence, et qui va continuer de le glorifier, lui, le Dieu trois fois saint. Très content d'avoir pu vous dire que j'ai déjà été beau, je sais que j'avais la misère à le croire, mais c'est une réalité. Ce même apôtre Jean, dans sa première lettre, chapitre 3, verset 3, nous dit « Quiconque a cette espérance en lui » se purifie comme lui-même est pur. C'est une espérance qui est un incitatif à la sainteté. On se dirige vers là, je vais être cela. Une question d'identité, dit-on souvent, et à juste titre, voyez. Alors, la vision de Jean commence avec une référence à l'Église comme épouse du Christ, mais le reste du passage décrit cette dernière comme la ville sainte qui descend de Dieu. Je pense que les deux idées se rejoignent, alors que la muraille et les portes décrivent le peuple de Dieu. Hein? Et l'ange transporte l'apôtre sur une haute montagne où se trouve la cité éternelle. On entend à nouveau les propos d'Ésaïe ici. Ésaïe chapitre 2, verset 2. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Beau témoignage de prédication pour les gentils déjà dans Ésaïe. Toutefois, dans les évangiles, Matthieu 14, 23, Luc 6, 12 et 9, 28, nous voyons Jésus se retirer sur, trois fois, nous voyons Jésus se retirer sur une montagne pour prier. En fait, depuis l'épisode du mont Sinaï, les montagnes sont associées à la présence de Dieu, anticipant la communion éternelle avec son peuple. Le verset 10 de nous dire, donc, « Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Il y a une subtilité ici. Notre traduction conjugue le verbe à l'imparfait, mais dans l'original, c'est un participe présent. Qu'est-ce que ça nous dit, un participe présent? Elle est toujours en train de descendre de Dieu. Ça nous dit quelque chose, ça. C'est une caractéristique permanente de cette cité que de dépendre en constance de Dieu, d'où sa sainteté. Ce n'est l'œuvre d'aucun homme. Et le texte poursuivre qu'elle avait la gloire de Dieu. Dans l'Exode, la gloire de Dieu, on s'en rappellera, brillait sur le visage de Moïse, hein, dans ses rencontres avec Yahweh. Et en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul de dire que nous avons cette même gloire-là, mais intérieure, œuvrant en nous. Il écrira d'ailleurs, nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Jean, de chercher à définir cette sainte gloire, au verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Et c'est déjà le rôle de l'Église, hein, que de briller pour Dieu, que de refléter sa gloire dans son enseignement, dans ses sacrements et dans son style de vie. Rappelons-nous la rapproche que le Seigneur fait aux Juifs dans Romains 1. « À cause de vous, le nom de Yahweh est blasphémé. » Hein, on est censé refléter la gloire de notre Dieu dans sa gloire, dans son enseignement, dans les sacrements et dans notre style de vie. Dans notre culture contemporaine, on trouve de grands rassemblements chrétiens et on s'en réjouit qu'il y ait des rassemblements chrétiens. Pardon. Des rassemblements chrétiens qui mettent cependant l'emphase sur le séculier. Les styles du monde, les buts du monde et bien sûr les moyens du monde, se reposant davantage sur les splendeurs des dernières technologies mondaines que sur le rayonnement de la gloire de Dieu par sa parole. Je ne vous le dirai pas. Je vais vous le dire. Non, je ne vous le dirai pas. Excusez-moi. Non seulement avons-nous un modèle d'Église dans l'Écriture sainte, mais nous avons aussi devant nous le produit final. Et que j'ai envie de vous le dire. Je vais prendre de l'eau à la place. Tu sais. Le silence est d'or. Dis donc. Well. En fait, ça change notre perspective quant aux épreuves présentes et à la souffrance. Non, ce que je veux vous dire simplement, non, je ne le dirai pas, oublions ça. Ça change notre perspective quant aux épreuves présentes et quant à la souffrance également. Le but de Dieu dans nos vies présentes n'est pas le bonheur, mais la sainteté. Est-ce qu'on ne voit pas souvent un Dieu qui est là, supposément à notre service, pour satisfaire tous nos caprices? « Ah, Dieu était bon, je n'avais pas de stationnement, il m'en a donné un. Ah, Dieu est bon, il a fait... » Ah, on le met dans... C'est correct, il est dans tous les détails, mais comme si c'était une espèce de serviteur au service des croyants. Ce n'est pas du tout le cas. Le but de Dieu dans notre vie, ce n'est pas de nous rendre heureux, ce n'est pas de nous rendre malheureux non plus, loin de là, mais c'est de nous rendre saints. Et nous rendre saints, ça va souvent de fois à l'encontre de ce dont nous avons envie, de ce que nous désirons, de ce que nous aimerions voir. Hein? Des fois, le mot saint nous fait dire « aïe aïe », comme on disait au début du culte. Des fois, il y a des petites douleurs, il y a des renoncements qui nous embêtent un peu. Il y a des choses auxquelles on aspire qui ne se réaliseront pas. Il y a des choses que d'autres ont, qu'on n'aura pas nous-mêmes. Mais le but de Dieu, c'est de nous rendre effectivement heureux dans la sainteté ou saint dans notre bonheur ou vice-versa. Ça change vraiment notre perspective. Les souffrances et les épreuves contribuent à cette marche qui, elle, nous conduit vers le bonheur ultime. Bien sûr que Dieu est bon, personne ne va en disconvenir. Dieu est bon au sens fort du mot, le mot sur lequel j'arrête pas d'accrocher, c'est le chesed de Dieu, son unfailing love, son amour qui n'a jamais d'échec, qui conduit à bon terme tout ce qu'il veut faire, nous parle de sa souveraineté. Il nous comble de bienfaits. C'est une grave erreur de croire qu'il est à plein temps pour faire notre volonté. Nous sommes en phase de formation, nous sommes en train de devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. En position, nous sommes absolument saints, en condition loin de là. Notre destinée n'est pas accomplie dans cet âge, mais dans l'âge à venir. Et tout ce que nous avons lu dans l'Apocalypse en rend témoignage. Et c'est ce qui donne un sens à tout ce qui nous irrite parfois au quotidien, ou nous réjouit au quotidien, c'est selon. Et ça m'amène à mon troisième et dernier point, la sécurité de l'épouse. Le texte nous a présenté une église toute en beauté, une église toute en sainteté et toute en gloire. Versets 12 à 14 ajoutent, « Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes. » Et à l'Occident, 3 portes, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Bien sûr que ces murs-là, entourant la grande cité, nous parlent de sécurité. On sait bien sûr qu'il ne restera pas d'ennemis. Au moment où on est rendu, l'ennemi a été vaincu. L'ennemi a été jeté dans ses souffrances éternelles. Après le jugement final, donc il n'y aura plus d'ennemis, mais les murs traitent de la sécurité du salut à l'intérieur de la cité, tout autant que du caractère protecteur de Dieu pour son peuple. La présence des anges à chacune des portes, ça nous rappelle les figures angéliques de l'Ancien Testament. On en voit beaucoup moins dans le Nouveau. On en voyait beaucoup dans l'Ancien Testament, des figures angéliques. À commencer par le chérubin protecteur qui gardait l'accès à l'arbre de vie en 3:24, on se souvient, lorsqu'on a mis Adam et Ève hors et qu'il y avait un chérubin protecteur qui gardait l'accès. Ici, leur présence indique que l'entrée dans la cité sainte se veut l'accomplissement du jardin d'Éden, en même temps que du tabernacle, que du temple et que de la terre promise. Les noms des 12 tribus d'Israël inscrits sur les portes, ainsi que les noms des 12 apôtres de l'agneau sur les fondements, nous confirment la présence de la plénitude des sauvés de l'Ancien et du Nouveau Testament, toute l'épouse du Christ. Comme si, on l'a déjà cité, vous vous souvenez ce que disait Spurgeon, il n'y aura aucune chaise vide au ciel. Hein? On sait que Dieu va sauver tous les siens. Quand on dit que Dieu va sauver tous les siens, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'évangéliser. Il utilise l'Église pour le faire. Si je n'évangélise pas, est-ce qu'il y en a qui ne seront pas sauvés? Non. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va peut-être prendre quelqu'un d'autre. On ne sait pas comment Dieu va faire, mais on sait que tous les sauvés vont se rendre au ciel par le témoignage de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend. « Ce ne sont pas des promesses nouvelles, elles ne sont que l'écho des prophètes de l'Ancien Testament, Zacharie entre autres. Chapitre 1, verset 16, de dire « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. » Et toujours dans Zacharie, chapitre 2, verset 5, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. » C'est apocalyptique, hein? Et au terme de notre péricope d'aujourd'hui, l'apôtre Jean décrit les dimensions et les matériaux de cette cité-là. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des commentaires là-dessus. Il y en a des bons, il y en a des déprimants. Hein? Ouf! Il fait bien sûr référence à des mesures et des matériaux physiques, à défaut de mieux, pour décrire l'infinie beauté de cette cité sainte-là. Verset 15. « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. » C'est rien d'autre que l'accomplissement de la vision d'Ézéchiel, chapitre 40 à 48, qui est la vision de l'Église, la vision du royaume, Ézéchiel 40 à 48. On n'est pas en train de parler de la reconstruction d'un temple à Jérusalem, comme même plusieurs en Israël croient. Hein? C'est l'Église du Christ, c'est le royaume. Et le prophète nous guide dans un tour du temple restauré, temple qui décrit symboliquement les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est intéressant de noter que ces mesures-là révèlent une forme parfaite. Quand vous les lisez, on se rend compte que ça forme un cube parfait. Où est-ce qu'on retrouve un cube parfait dans l'Ancien Testament, sinon que pour le lieu très saint, qui représentait la résidence même de Dieu, le lieu même où Dieu se tenait, protégé par les chérubins de chaque côté. Alors c'est intéressant qu'il forme ce cube parfait, exactement comme le faisait le lieu très saint, demeure de Dieu. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'un cubicule, mais d'un monde nouveau, d'un monde né du Christ Jésus. Et lorsqu'on parle des dimensions de la ville à hauteur de 12 000 stades, c'est pas petit. 2415 kilomètres, c'est un bon petit bout. La dimension du monde grec de l'époque, la distance entre la Grèce et la Grande-Bretagne, ça ne nous dit pas que ça va être les mesures des nouveaux cieux de la nouvelle terre, mais ça nous dit qu'il va y avoir du monde là-dedans. On ne sera pas entassé dans une espèce de petit cubicule où on se bouscule pour faire sa place. Non, il va y avoir du monde là-dedans. Vous savez, on cite souvent, et à juste titre, le verset « Ne crains point, petit troupeau, car il a paru bon père de vous donner le royaume. » C'est vrai que dans chaque génération, il n'y a qu'un petit troupeau. Mais avec l'accumulation des générations, on va être un bon nombre de personnes là-bas. Et si vous êtes comme moi un petit peu antisocial, rassurez-vous, on va être glorifié. Alors on va beaucoup aimer cela aussi. On va prendre grande joie dans la communion fraternelle que nous aurons là-haut. Le verset 11 nous parle de l'éclat de la brillance de cette cité sainte. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Et ça se poursuit au verset 18 à 21, où l'apôtre s'efforce de trouver des mots pour décrire ce qu'il voit et ce qui l'émerveille. C'est intéressant parce que c'est sûr que nous avons les ipsissima verba spiritu. Nous avons les paroles que l'Esprit a inspirées. Hein, on sait que c'est une parole d'homme inspirée par Dieu, mais ça demeure quand même l'inspiration de l'Esprit. Et l'apôtre, l'Esprit lui donne ces mots-là, effectivement, pour tenter de décrire ce qui l'émerveille. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Saviez-vous qu'il existait autant de pierres précieuses sur la planète? C'est une très grande découverte, en autant que j'étais concerné. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Et ces pierres précieuses-là, vous savez, ne sont pas arrivées subitement dans l'Apocalypse. On les retrouvait déjà dans l'Ancien Testament. On les retrouvait sur le pectoral du grand prêtre. Et ça, ça nous en dit long. Vous savez. Le grand prêtre avait déjà tous les saluts, tous les sauvés sur son cœur. Ça nous rappelle cette belle expression qui nous dit que nous sommes en Christ Jésus. Nous sommes sauvés parce que nous sommes en Christ Jésus, et lorsque nous sommes sauvés, nous sommes mis en Christ Jésus. Les deux réalités sont vraies. Mais nous sommes sauvés parce que nous sommes en Christ Jésus. Dans l'éternité passée, Jésus a toujours été notre souverain sacrificateur. On a toujours été sur son cœur. Lorsque Dieu a procédé au dessein d'élection, c'est en présence du pectoral de Christ, du cœur tout amour du Christ Jésus, qui allait venir nous racheter à ceci rempli. Alors, ce que le grand prêtre faisait, il ne faisait que reprendre cette réalité d'une manière visible, que nous avons toujours été, nous les élus, sur le cœur de notre souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne nous donne pas de l'orgueil, mais ça nous donne de la confiance dans nos difficultés, dans nos luttes, dans nos faiblesses, dans les moments où on se demande si on va finir la course. On va la terminer la course parce que c'est en Christ que ça se passe. Un semblant d'application, si vous me passez l'expression. Que nous puissions, à la lumière de ces textes-là, considérer deux vérités fondamentales. La première étant l'unité de la parole de Dieu. On lit les prophéties de l'Apocalypse et on revient où? On ne cesse de revenir à Moïse, à Ésaïe, à Ézéchiel, à Daniel et aux autres. Toute la parole de Dieu nous parle du Christ Jésus. La parole de Dieu est une unité. Tout ça toujours triste dans certains milieux où on dit c'est le Nouveau Testament maintenant qu'il faille lire. Comme si l'Ancien Testament était un vieux livre pour les Juifs, c'est un livre pour nous autres aussi. Il y a une unité dans la parole de Dieu et il est extrêmement important de prendre ça en compte. Et la raison est simple, la révélation de ces prophètes a simplement pris place dans l'histoire progressive de la rédemption, qui va toujours en s'éclaircissant, mais la théologie demeure la même. Moïse a bâti son tabernacle au milieu du deuxième millénium avant Jésus-Christ, Ézéchiel a vu son temple aux alentours de l'an 600 avant Jésus-Christ, et Jean écrit son Apocalypse vers la fin du premier siècle. Même théologie. Ces trois visions conduisent le lecteur de la Bible à adorer un Dieu saint par le moyen de sacrifices expiatoires qui pointent vers le sang de l'agneau, le sang que Jésus a versé. Toute la Bible, comme on l'a vu lorsqu'on étudie Luc 24, nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une autre vérité qui doit être mise en lumière. C'est que la demeure éternelle de Dieu n'est pas un lieu. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est quoi d'abord? C'est son peuple. La demeure de Dieu n'est pas un lieu, c'est son peuple. Dieu a toujours voulu vivre parmi son peuple. On le voit d'ores et déjà en Éden, quand il naît avec ses rencontres. Ça nous est présenté comme des rencontres quotidiennes avec Adam et Ève. Dieu a toujours voulu être avec son peuple. Dans le tabernacle, dans le temple, et bien sûr, dans l'Église. Emmanuel, Dieu avec nous. Les pensées que nous avons survolées aujourd'hui se veulent rarement présentes dans les activités de notre quotidien. Nous sommes davantage préoccupés par bien des choses, Et à juste titre, souvent de fois, nous sommes préoccupés par nos emplois, par l'éducation de nos enfants, par l'importance de faire des économies. Bref, nous sommes préoccupés par le fait que nous avons besoin de vivre dans ce monde. L'apôtre Jean nous rappelle cependant que le jour de la fin où tout ce que nous chérissons ici-bas approche à une vitesse vertigineuse. Il laissera place à notre réalité éternelle selon notre relation avec Dieu en Jésus-Christ. Comme nous avons besoin de rester en amour avec le Christ. Et c'est par fréquentation que ça se fait. Il y a une vérité bebaïde dans le monde qui est quand même une vérité loin des lèvres, loin du cœur. Il y a une réalité là. C'est par fréquentation que ça se fait. C'est la même chose pour la communion fraternelle aussi. Hein? C'est par fréquentation que ça se fait. C'est par les moyens de grâce, la parole de Dieu, les sacrements, la communion fraternelle et la prière. Ce n'est pas quelque chose d'ultra mystique, mais c'est uniquement la grâce de notre Dieu qui est ainsi diffusée par les moyens qu'il a choisis. Le mot final... Dans l'Évangile Matthéen, chapitre 13, versets 45 et 46, « Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Amen.